Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur. Noble.
Journal vivant. Projet politique.
Construction.
Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade. Hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Et bienvenue au Théâtre de la Gamelle. Aujourd'hui, nous donnons carte blanche au metteur en scène présent au Théâtre du Point du Jour jusqu'au 31 décembre. Il s'agit d'Yves Noël Genoux. Bonjour Yves Noël.
Bonjour Cécile.
Oui, Cécile. Donc Cécile Hernandez, c'est moi qui présente l'émission aujourd'hui. Donc il est également accompagné des artistes qui jouent sur le spectacle actuel qui s'appelle La Splendide Actrice. Donc il s'agit de Laetitia Doche.
Bonjour Cécile.
Bonjour. Nous avons également Gaëlle Salle. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Et Simon Espalieu. Bonjour Simon.
Bonjour Cécile.
Et donc celui qui nous a créé, celui qui a créé la musique d'introduction qui est présente, qui est présente dans le spectacle La Splendide Actrice, Benoît Pelé. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Nous avons aujourd'hui à la technique Charlotte Touilleux. Bonjour Charlotte.
Bonjour Cécile.
Donc l'émission va se dérouler ainsi. Nous donnons carte blanche à nos invités. Au sein de cette carte blanche, nous allons également discuter autour du spectacle La Splendide Actrice et du projet que mène Yves-Noël Genoux au Théâtre du Point du Jour. Il a été invité par Gwenaëlle Morin. Enfin, nous aurons la chronique hebdomadaire de Thomas Lynn qui nous parlera aujourd'hui de Thomas Bernard de Gilles Pasteur au Théâtre de la Croix-Rousse. Les artistes, c'est à vous.
Alors, ben, bonjour.
Bonjour.
Non, ça, on a déjà dit bonjour. Alors, voilà, on est. Bonjour aux auditeurs aussi.
Oui, bonjour.
Bonjour aux auditeurs.
Bonjour.
On peut dire
bon
aussi.
Bon appétit aussi.
Bon appétit. Et puis aussi, on peut être heureux que. Enfin, en tout cas, je ne sais pas jusqu'où les gens écoutent, mais nous, on a beau temps. Dans la rue comment ça s'appelle? Sergent Blandan.
Les locaux de Radio Canu.
Bon, alors maintenant on peut parler du bureau de Mathieu Gallet, c'est ça? Tout ça a été refait par à l'identique pour le bureau comme ça? C'est ça?
C'est joli, hein.
Mais c'est bien fait, mais.
Non, le papier peint rouge est.
Ça a vraiment coûté si cher que ça?
Bon, je pensais être autour de 20 000 euros, là, le bois, là, quand même, hein.
Mais c'est plus cher.
C'est du bois
non
de chêne, hein.
C'est du lambris, c'est des bois de. C'est bois précieux.
Quand même, pour une radio libertaire, je trouve ça un peu gonflé d'avoir fait le bureau de Mathieu Gallet pour faire de la radio, non?
Refaire le bureau, mais c'est pas non plus du grand luxe, non, si? J'arrive pas à imaginer.
C'est pas prétentieux,
si
tu vois, c'est humble. C'est pour
ah
ça.
Oui, je sais
c'est
pas pourquoi on a fait tellement d'histoires.
C'est qui Mathieu Gallet?
Moi, je connais quelqu'un qui est maintenant collaborateur de Mathieu Gallet et il m'a dit qu'il pouvait pas venir parce qu'il avait des problèmes d'argent.
Ouais.
C'est bizarre, ça, quand même, comme excuse. Il est collaborateur de Mathieu Gallet à la radio et maintenant il peut pas venir à Lyon parce qu'il a des problèmes d'argent pour pas payer le train. Ça m'étonne quand même.
Pour y revendre ses porte-stylos, à mon avis, ça irait.
Il pourrait piquer un truc ou deux, c'est vrai, et puis voilà. Alors, non, mais c'est nous qui parlons, c'est tout, c'est ça. Ah, d'accord. Alors, bon, alors on va parler de. Donc, la pluie et le beau temps, on a parlé, et maintenant, on peut parler de.
Du spectacle.
Du spectacle.
La splendide actrice.
Spectacle numéro 4.
Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce spectacle?
Bah, on pourrait un peu raconter aux gens, comme ça ils seront pas déçus quand ils viennent.
Oui, mais c'est en même temps, moi je dis tous les soirs aux gens que évidemment je fais un petit discours à l'entrée parce que il y a du noir, on voit rien des fois. Donc il faut prévenir les gens parce qu'il y a des gens qui sont phobiques. Et que je peux pas voir le spectacle à cause de ça. Et puis, je parle un peu, puis je leur dis, mais je monte sur une chaise, je leur dis, je peux pas vous, évidemment, savoir si vous allez aimer ou ne pas aimer le spectacle. Mais ce que je peux vous promettre, c'est qu'il va vous surprendre. C'est pas mal, parce que même les gens qui aiment pas, du coup, ils me disent à la fin, oui, c'est vrai que c'était surprenant, vous avez raison. Donc, c'est pour ça, ça joue beaucoup sur des surprises quand même.
Mais t'as pas dit quand même pour le champagne?
Ah oui, il y a aussi du champagne à l'entrée.
Tous les soirs.
Pour continuer dans le luxe du bureau de Mathieu Gallet. Et puis, non, ça joue sur des surprises. C'est-à-dire, il y a du noir et puis il y a de la lumière. Et évidemment, la lumière révèle quelque chose qui est une surprise, ouais. Je le vois comme ça un peu, non? Mais le noir, il est évidemment très sonore. Avec ce que fait Benoît, ou aussi les chanteurs, etc. Ah, il y a des gens hier qui m'ont demandé s'ils chantaient en direct, s'il y avait des chants en direct. Ils n'avaient pas compris qu'il y avait. Ils n'étaient pas sûrs.
Malgré le chat dans la gorge,
mais
de Jeanne.
C'est pas mal, oui. Mais ils étaient. C'est pas mal, ça, parce que c'est.
Moi, je crois que c'est parce qu'aussi, je ne sais pas si c'était volontaire, mais on ne les voit jamais vraiment de face chanter dans le spectacle. Oui. Ils sont souvent de dos, oui. Et je me le suis dit aussi qu'on pouvait imaginer que... Ouais.
Et tu leur as dit ça à un moment, que c'était comme si n'importe qui pouvait
chanter. Oui, comme ça remplit tout le plateau.
Je ne sais pas quel acteur, etc.
Et en effet, on a essayé de faire un spectacle, enfin je me souviens de ce qu'on se disait un peu au début, le plus lointain possible, comme si c'était un spectacle qui venait d'une lointaine galaxie, d'une lointaine planète, une espèce d'image, parce que on s'intéresse aussi à la physique quantique, tout ça. Mm-hmm. Je lis
Benoît nous en parlait juste avant que vous arriviez au studio.
Ouais.
Des lectures.
Par exemple, en fait, comme un jour de soleil, comme ça, si on est dehors, on reçoit la lumière du soleil. En fait, on renvoie la lumière tout le temps. On envoie des images, en fait. Et ces images, si elles rencontrent pas d'obstacles, elles continuent leur route à l'infini dans l'espace, en fait. Ce qui veut dire que, à l'autre bout du monde, s'il y avait des capteurs, ils pourraient capter comme on capte la lumière des étoiles, qui de toute façon sont pas du tout une lumière présente, parce qu'elles sont très loin. Donc, des lumières passées, ou même des étoiles mortes, d'ailleurs aussi, dont on voit encore la lumière, puisque c'est décalé, quoi. C'est la lumière qui voyage. Et nous aussi, nos images comme ça voyagent à l'infini, en fait. Je sais pas, on a pensé à des trucs comme ça, des hologrammes, des robots, des robots, et puis des spectres, et puis des morts vivants, etc.
Non, mais moi, j'ai ressenti ça. Enfin, je trouve que les acteurs disparaissent vraiment sur scène. Mmh. Quand ils sont plus là, c'est comme s'ils n'avaient jamais été là. Mmh. J'ai cette sensation.
Ouais. Et j'ai un spectacle qu'on avait fait avant, qui est un peu aussi avec Benoît et Jeanne et Bertrand, les chanteurs, au Bouffe du Nord à Paris. Je me souviens que je répétais beaucoup ça, il y avait Simon aussi, aux acteurs. Je leur disais, l'idéal, ce serait des costumes avec personne dedans. Et alors, je suis très content maintenant de tomber sur ce texte très connu, hein, mais c'est un ami, Laurent Chétoine, qui le monte à Paris en ce moment. Je ne vais pas pouvoir voir le spectacle, malheureusement, mais sur le théâtre de marionnettes de Kleist. Et oui, il dit ça aussi, c'est un texte qui a 200 ans, où il dit que les marionnettes, c'est un danseur qui parle, que les marionnettes dansent mieux que n'importe quel danseur, même le plus fameux de l'époque, qui s'appelle Védris, je crois. Védris, je ne sais plus. Donc voilà, c'est ces idées-là de... Moi, par exemple, pour finir là-dedans, moi, j'ai hâte que les robots arrivent, pas dans la vie courante, parce que ça va être un peu embêtant, j'ai l'impression, parce qu'il va falloir devenir des techniciens. Mais pour le théâtre, oui. ce serait très bien. Il y a des, ça, des, ça commence déjà un peu des Japonais qui font avec les robots. Ou alors Mylène Farmer, elle a fait son spectacle avec des robots. Et il y a des robots qui dansaient sur ses chansons. Malheureusement, quand je l'ai vu, je t'ai invité, eh bien, les robots étaient cassés. Elle a dit, les robots sont cassés. Pourtant, on va faire une très belle soirée quand même.
En pleurant.
Oui, un petit peu comme ça, désolé, en même temps. Et tout le monde disait, oui, on va faire une très belle soirée. Mais moi, j'étais déçu parce qu'on m'avait dit, le clou du spectacle, c'est les robots qui dansent sur ces musiques. Bon, j'ai assez parlé maintenant.
Oui.
Vous, je laisse la place aux interprètes du spectacle. Laetitia Doche, par exemple.
Qu'est-ce qui vous arrive dans ce spectacle, alors?
Alors, on est un peu des marionnettes, mais quand même, pour vous dire, parce que on pourrait estimer que c'est un peu vexant qu'on dise qu'on serait bien qu'on soit des robots, mais en fait non, parce que c'est plus essayer de quand on est interprète de pas produire, de pas jouer dans le sens c'est vivant hein, quand on le voit c'est vivant, c'est pas ça, mais de pas produire des choses spectaculaires. On doit juste ressentir des choses ou transmettre ce qu'on ressent, mais ça se passe naturellement. Ça se joue vachement avec l'espace aussi. Et en fait, tous les acteurs, ils doivent se raconter des films terribles quand ils jouent dans cette pièce et qu'ils doivent changer sûrement tous les soirs. Voilà, mais sinon, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais Tchekhov.
Il le dit Tchekhov aussi. Il le dit, il ne faut pas représenter
la vie telle qu'elle est, ni telle qu'elle doit être, mais comme elle se représente en rêve. Et c'est difficile à décrire, ça dépend de chacun aussi. Mais...
C'est-à-dire que la vie est un songe.
Voilà, c'est ça.
Par rapport à l'astrophysique, il y a un truc que tu avais lu que j'utilise beaucoup, même depuis avant, je pense, ces spectacles-là, sur les particules qui, quand en fait il y a quelque chose qui bouge, une particule qui bouge à un endroit de l'univers, à l'autre bout de l'univers, si loin que ça soit, les autres particules sont immédiatement informées.
Ah oui.
Et qu'il y a pas de temps en fait, enfin c'est direct quoi.
Ah oui, ça c'est vraiment bien. Un événement dans l'univers, comme une explosion.
Et parfois sur le plateau, même si quelles que soient les histoires qu'on se raconte, il se passe rien, il y a juste quelqu'un qui entre par derrière sur scène, ou un autre personnage, un autre acteur qui rentre. Et même sans rien jouer, oui, il y a un truc comme ça de, et sans rien changer, c'est-à-dire, moi, je suis mobile, et puis quelqu'un rentre, et ça me fait pas bouger, mais il y avait ces particules qui changeaient, et d'un coup, c'est une autre image, et il y a un autre endroit du spectacle comme ça, où chacun notre tour, on sort, il y a que moi qui reste à la fin, et c'est chaque fois, comme une nouvelle chose, un nouvel univers, à chaque fois que quelqu'un sort, l'image est de nouveau complète, mais avec quelqu'un de moins, et il y a comme si le monde changeait en fait du tout au tout, alors qu'il y a juste quelqu'un qui a fait un pas ou quelque chose.
Alors en physique quantique, une explosion dans un coin de l'univers, ils sont aperçus qu'à l'autre bout, les particules ont été informées. Voilà comment on m'a raconté l'histoire. Et ils se sont demandé s'il y avait une vitesse de l'information qui était supérieure à celle de la lumière. Et en fait, non, c'est plus simple. C'est parce que quand il y a une explosion, c'est l'espace qui est changé. En fait, et comme à l'autre bout de l'univers c'est le même espace, les particules en sont simultanément informées. En fait, ça c'est vraiment intéressant pour le théâtre, parce que ça veut dire que si les spectateurs sont dans le même espace, c'est même pas une vitesse. Parfois on va voir des grands acteurs puis on se dit ah là là comme ils communiquent vite avec leur public, etc. Mais c'est même pas une question de vitesse, c'est simultané, à condition évidemment qu'on ne sépare pas l'espace des spectateurs de l'espace des acteurs.
Moi, perso, c'est ce que j'ai ressenti, ou comment tout est événement, en fait, dans ce spectacle. La moindre petite chose.
Ben oui, c'est pour ça que c'est pas évident, parce que, par exemple, les spectateurs, ils viennent aussi, ils participent hautement au spectacle, dans l'état où ils sont, et sans préparation. Donc, par exemple, il y a une fille que j'ai dû sortir, parce qu'elle toussait tout le temps. Bon, voilà, c'est un problème, parce que... Enfin, c'est quand même très fragile, ces choses-là, parce que...
Il y a une chose amusante aussi, c'est parce que il y a du nu un peu dans ce spectacle.
Du nu ?
Oui, écoute.
Mais il n'y a jamais de nu !
Radio Libertaire.
Du déshabillé.
Il y a du déshabillé, il y a de la mi-pudeur, la mi... Comment on dit, Jean ?
La mi-de-pain ?
La mi-de-pain, oui. Il y a Il y a un truc que j'ai vu plusieurs fois, parce que moi je suis dans le public toute la première partie du spectacle. Il y a quand même un truc qui est drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui est un peu mis de pain devant, hein, devant nous. Et il y a une spectatrice qui, deux soirs de suite, la femme a vu, voilà. Et, non, c'est une autre, elle a fait comme ça, elle fait oh! Et après elle a remis ses lunettes et elle s'est rapprochée pour regarder.
Ces lunettes qu'elle avait enlevées dans le noir.
On les a, voilà, c'est ça, exactement.
Très bonne idée.
Ouais, ouais. Donc, tous les petits événements, pour vous dire, sont des gros événements. Voilà, c'est pour arriver à cette conclusion.
Elle est très bien, Laetitia, parce qu'elle attire, elle est dans le public, en effet. Elle attire auprès d'elle les gens qui vont pas supporter le spectacle. Donc, elle les maintient un petit peu dans sa sphère.
Tout toujours à côté de moi, ouais. Ouais. C'est vrai.
Ce qui fait qu'ils font moins de dégâts, en fait. Elle prend les énergies, pof, qu'elle transforme ensuite en joie.
Et ça fait quoi, oui, du coup, de voir le spectacle et d'être spectatrice et après d'en devenir actrice?
Bah, ça fait pas peur, en fait. Moi, j'avais... Puisque c'est comme si... en fait, c'est la façon dont moi je commence en critique. En jouant des personnages qui critiquent la pièce qu'on vient de voir. Et du coup, je suis comme dans le public, tu vois, comme une membre du public qui râlerait, comme il y en a souvent. Mm-hmm. Et donc, en fait, le lien, il se fait facilement. Mais aussi, moi, j'ai l'impression d'être un peu un fantôme dans ce spectacle. Du coup, je suis un fantôme qui regarde d'autres fantômes. Enfin, j'ai comme si les gens n'existaient pas autour de moi. C'est assez marrant, quoi. Alors, je les sens. J'ai l'impression de ne pas être dans le même monde qu'eux. Mm-hmm.
C'est drôle parce que, mais c'est vrai, c'est très fantomal, hein, ce qu'on fait, ce théâtre comme ça. Mais on essaye un autre texte de Tchekhov avec Jonathan, qui est aussi dans ce spectacle. Mais pour un autre spectacle, et il le dit aussi dans Les Trois Sœurs, quelqu'un dit j'ai l'impression de ne pas exister, mes jambes, mes bras, j'ai l'impression que ça m'appartient pas, j'ai l'impression d'être, c'est très curieux, c'est dans le théâtre, ça, cette Hamlet beaucoup évidemment, mais cette perception d'une transparence comme ça de l'existence.
Mais tu sais, j'ai lu un texte, j'écoute les interviews de Sabine Ezema, là, et elle parle d'elle quand elle était petite, elle décrit exactement la même sensation. Elle dit, quand on est enfant, on a l'impression que les autres sont des figurants ou des fantômes, enfin, qui sont pas dans le même monde que nous. Enfin, c'est marrant, en fait, c'est un truc qui vient de l'enfance, on a l'impression,
oui,
cette chose-là.
Peut-être, ouais. Ouais. Peut-être.
Bah ouais, ce serait dommage de vous citer des extraits, ce serait dommage.
Là, on entend quelque chose du spectacle.
Ah ouais.
Oui. La pluie, la forêt équatoriale. J'étais dans le Yucatan récemment, au Mexique. Des forêts comme ça, et puis des haciendas en ruine, et puis... au milieu, et puis chaque hacienda est construite à l'emplacement d'une pyramide maya, un village comme ça, c'est vrai, c'est très peuplé, il y a le village et construit autour de l'hacienda, le village évidemment pour les ouvriers, et puis c'est en fait dans des emplacements qui sont où il y a des pyramides, tu peux monter sur une pyramide, tu vois toute la forêt au-dessus là, au-dessus de la canopée comme ça.
Il y a une vraie pluie dans le spectacle.
Parle-nous de ton enfance, Gaël.
Ça a commencé il y a très longtemps. Et puis, je sais pas si c'est fini, en fait.
Ça c'est un peu. Alors là, parlons. Alors ça, c'est un problème de société. Parlons de l'adolescence. Donc ces jeunes qui restent adolescents jusqu'à très tard.
Non, mais ça n'existe pas. Ça, non, c'est pas vrai.
Et dans la dénégation plus complète.
Il y a pas. Je pense pas qu'il y ait d'adolescents, d'adultes, tout ça. Enfin, s'il y a pas d'adultes, il y a pas d'adolescents et vice versa, quoi.
Moi,
non, t'es pas d'accord avec
c'est plus facile pour les adultes de pouvoir reprocher aux jeunes de pas faire la vaisselle quand eux ils sont rangés dans la case adulte et qu'ils sont responsables.
Ouais.
Non, mais c'est lisez les journaux, c'est écouter la radio, regarder la télé. On en parle de ce problème de l'adolescence. On en parle.
Mais oui, mais
c'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui. Alors bon.
On parle aussi de la télé-réalité, de télé-réalité.
Et comment on devient adulte alors?
Moi, j'ai quelque chose à dire.
C'est vrai, c'est une bonne question. Mais comment on devient adulte, c'est une bonne question. Moi, je ne sais pas y répondre. Vas-y, Laetitia.
C'est quelqu'un qui m'a dit ça un jour, ça m'a beaucoup rassurée, qui m'a dit que plus, en fait, quand on grandit pas. C'est juste que, comme quand on écoute la radio, il y a des curseurs, il y a des lignes. Et donc la ligne enfant, il y a une autre ligne qui va se rajouter en même temps, qui va être la ligne adulte. La ligne adolescence, elle peut rester. Et en fait, elle reste en parallèle comme des curseurs, comme des sons, quand on regarde la ligne de son qui bouge devant la radio, vous voyez ? Vous comprenez ce que je dis ?
Ah mais c'est très bien ça. Ah ben oui, bien sûr, voilà. Parce que il s'agit pas de d'effacer quelque chose, ouais, c'est sûr. C'est
mais ça remplace pas, ça se rajoute à côté.
Oui, c'est ça.
Dans le meilleur des cas, parce qu'on peut aussi oublier un petit peu comment c'était.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est des chants qui se superposent sans doute, ouais, mais qui tout existe tout le temps, oui, bien sûr, je pense.
Souvent les garçons on dit aussi qu'ils grandissent pas, mais que c'est leurs jouets qui deviennent plus gros et plus chers.
Ah ouais, ça on peut dire, on peut parler des garçons comme ça, oui. Oui.
C'était un bon mot pour finir cette carte blanche, j'ai l'impression.
Oui. Allez, carte noire maintenant. On est de retour, on a écouté donc une petite japonaise qu'on a enregistrée, je crois que c'était en Thaïlande, n'est-ce pas Benoît, tu me...
Il n'y a pas d'amalgame, pas d'amalgame.
Pas d'amalgame. Alors
Oui, mais du coup, voilà, Cécile. Votre projet, c'est le son de théâtre et de ténèbres au point du jour, et l'invitation a été faite par Gwenaëlle Morin, du coup, directeur du théâtre.
Exactement.
Alors, quel est ce projet ? Vous voulez nous donner des leçons de théâtre ?
C'est un projet de théâtre permanent, comme Gwenaëlle Morin l'initie depuis quelques années déjà. Donc, il m'a confié son théâtre pendant 4 mois, et il l'a déjà fait avec un autre groupe, et puis il va continuer ensuite. Après, en janvier, il y aura encore quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom, mais pendant 4 mois. Et voilà, c'était pour moi, c'est très important, parce que c'est la première fois qu'on me fait une proposition sur du temps comme ça. Donc, j'ai proposé de faire un spectacle qui se déroulerait comme... Enfin, ce serait des spectacles indépendants, mais ça ferait comme des épisodes d'un seul et même spectacle, parce que l'unité des choses pour moi vient beaucoup du lieu, donc c'est toujours le même lieu, et puis les spectacles sont très différents. Enfin, jusque là j'ai réussi à faire des contrastes. Je suis un peu embêté maintenant parce que ce spectacle est très riche, la splendide actrice, donc et puis ça vient un peu par surprise les choses, c'est parce qu'il y a un moment il y a des disponibilités et puis les choses se font très très vite, et donc j'ai pas la sensation d'avoir fait ce spectacle comme les autres. Mais maintenant que je le vois être si dense et si riche, je sais pas quoi faire pour la suite, par exemple. Je suis un peu inquiet parce que je me sens un peu je suis inquiet parce que je sais pas comment. Je vois quelque chose dont je serais incapable de refaire ça aussi bien. Et puis, alors évidemment, l'idée c'est de faire la même chose mais différemment, mais quand même il faudrait plus de temps, et là c'est dans une semaine que je dois sortir un nouveau spectacle. Alors, je sais pas ce qu'on va faire. J'ai pas dormi cette nuit, je vous dirais, à cause de ça, mais peut-être je peux lancer une petite annonce. En fait, c'est l'idée d'une masterclass, c'est-à-dire à peu près à mi-parcours comme ça, de faire une mise en abîme du travail en le montrant non pas comme le résultat, mais comme un peu les prémices, c'est-à-dire que je dirigerai des interprètes, voilà, en direct avec le public. Donc ces interprètes, faut encore les trouver. Donc voilà, s'il y a des gens qui écoutent la radio, qui ont envie de participer à cette masterclass comme ça, vous pouvez venir. Peut-être qu'on peut le faire avec des gens du public, peut-être que, mais c'est très compliqué. C'est très très compliqué parce qu'il faudrait être en pleine forme et je suis très fatigué. Voilà. Non, il faudrait être en pleine forme et puis, mais peut-être ça va se faire, mais puis après il y en a trois autres, etc. Bon. Enfin, voilà, c'est surtout ce problème de la masterclass qui me pose problème, parce qu'il y a, une structure prévue, mais qui est maintenant un peu contraignante. Ça doit être filmé, etc., par César Vessier. Parce que c'était l'idée d'un... J'avais fait ça une fois dans un film de César Vessier, qui est celui qui filme mes spectacles. Il m'avait demandé donc de faire un prof de théâtre pour un long métrage qu'il a fait. C'est là que j'ai rencontré Gaël. Et ça m'avait beaucoup amusé de jouer un prof de théâtre, mais c'était son film et donc du coup je me permettais de faire des conneries et tout ça. Mais là c'est compliqué parce que je ne sais pas comment faire ces conneries, ou alors enfin c'est compliqué. Je sais pas quoi. Voilà.
C'est ça qui est marrant quand même de donner le théâtre à quelqu'un pendant 3 mois qui fasse des pièces régulièrement, c'est que tu vas voir ça comme un... Tu vas voir ces spectacles comme prendre un peu la température de là où il en est. C'est quand même un challenge d'arriver à faire quelque chose de nouveau si vite. Et donc, comme spectateur, c'est vraiment bien parce que je pense qu'ils viennent voir ce que vous faites, en se disant, bah alors qu'est-ce qu'ils nous ont préparé cette semaine, comment ça va par rapport à la semaine dernière. Enfin, c'est presque un rapport humain en fait, très fort. Et donc c'est vraiment intéressant ça de vous suivre. Et tu les entends beaucoup, les gens à la sortie dire, ah bah c'est différent du troisième, ils comparent. Et ouais, c'est assez chaleureux ça.
Mais c'est un peu comme au restaurant où on sert le menu du soir.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il y a un truc qui se comprend pas complètement avec les spectateurs. Ça juge, ça. Oui, c'est un peu. Donc, souvent, j'ai l'impression qu'on passe un peu à côté de la chose en elle-même. Parce que les gens sont encore beaucoup dans le. Pas tous, mais. Dans justement le jugement, remarquer les qualités, les défauts, je sais pas, enfin, et tout ça évidemment c'est un peu embêtant par rapport à ce qu'on appelle la chose elle-même. Souvent on travaille avec cette phrase de Wallace Stevens qui dit not ideas about the thing but the thing itself, pas d'idée à propos de la chose mais la chose elle-même. C'est l'idée de la poésie, mais c'est aussi l'idée de ce théâtre, et j'aimerais bien que les spectateurs comprennent plus qu'ils ne sont pas en retrait, en fait, qu'ils sont la chose elle-même. Et je ne suis pas sûr que ce soit encore vraiment compris, parce que, ouais, par certaines personnes, oui, mais ce n'est pas le truc où on montre justement des facettes et qu'on peut dire, ah ben ça, j'ai mieux aimé que ça. Pourquoi pas, mais ce n'est pas ce niveau-là, au fond, finalement, ce qui est intéressant. Alors c'est compliqué. Je sais pas si c'est un peu, si je donne quelque chose de clair dans ce que je dis ou rien du tout.
Bah si après chaque, si c'est.
Comment ça vous l'a fait vous?
Deux.
Le spectacle.
Ben moi personnellement, voilà, ça, j'aime vraiment beaucoup, et j'ai plein d'amis aussi autour de moi qui, enfin moi j'ai jamais été autant au point du jour que depuis que. Qui a ce travail qui se fait là-bas, et du coup moi ça me bouleverse vraiment. Après c'est moi personnellement, je sais que j'ai d'autres personnes d'autres de mon entourage à qui c'est un vrai événement ce qui se passe là-bas.
Peut-être qu'il y a, ben c'est très gentil et je vous crois, peut-être il y a une chose un peu difficile avec cette idée de leçon. Des fois, j'ai l'impression que du coup, les spectateurs, parce qu'évidemment, c'est une leçon aux spectateurs, pas aux acteurs et tout ça. À part que Laetitia Doche, par exemple, me donne une leçon.
Oui, oui.
Ça, c'est d'accord. Moi, je prends un cours avec elle, évidemment. Mais l'idée de leçon est évidemment directement aux spectateurs. Alors peut-être c'est arrogant un peu, c'est vécu comme une chose arrogante, et du coup, ils transforment ça en son envers, c'est-à-dire que c'est eux qui me donnent un peu la leçon. Je sais pas. Il y a quelque chose un peu dur comme ça dans le rapport, j'ai l'impression, je trouve.
Mais on pourrait aussi parler de déconstruction plutôt que de... C'est une leçon, mais en fait, c'est déconstruire notre manière de voir un spectacle. Parce que depuis tout petit, avec l'éducation à l'école, on nous a appris qu'il fallait voir un spectacle d'une telle manière. Et je pense qu'avec les spectacles que vous proposez, ça nous déconcerte. Et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on peut parfois ne pas aimer ou aimer. Mais il faut peut-être une préparation justement au spectateur, parce qu'il, oui, il joue un rôle dans ces pièces. Et si on n'est pas préparé, bah, on peut vite se sentir isolé ou ne pas entrer à l'intérieur de la pièce.
Ah oui, absolument. C'est la déconstruction. Ben oui, c'est la déconstruction pour entendre des choses, pour voir des choses, pour sentir des choses, quoi.
Et c'est ce que les Noirs, justement, créent, je trouve. C'est comme si d'un coup on nous disait, bon, ben, tu vas te retrouver avec toi, et c'est vraiment comme un, voilà, on se nettoie de notre journée, de ce qui, tout ce qui, on a eu sous les yeux, et on est neuf pour accueillir.
Ouais. Oui, oui. C'est un petit temple, non?
Si, c'est ça. En fait, ce qui est assez étrange, moi, quand je joue, c'est que j'essaye de jouer, et c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, ou peut-être au cinéma, mais au théâtre c'est différent, mais comme si le spectateur n'était pas là. Alors ça veut pas dire que je m'en moque, c'est que j'essaye de l'amener vers quelque chose d'intime de moi, qui revient, qui rapproche de l'enfance, de comment on joue quand on est enfant à des jeux, sans que personne nous regarde, pour le plaisir d'inventer quelque chose, d'imaginer quelque chose. J'essaye, et parfois ça marche, ça dépend, de les amener à cet endroit-là. Mais c'est ce que je sais pas, c'est chez, avec Yves Noël que je découvre ça.
Ouais, parce qu'en plus, bah, on peut le noter, c'est que tu joues plusieurs personnages, en fait. Il y a Tréplef, Nina, mais il y a aussi Trégorine, la mère aussi de Tréplef. Du coup, voilà, dans ce dédoublement. Mais moi, je trouve qu'il y a toute l'ironie de Tchekhov qui apparaît dans ce dédoublement du personnage, et tous ces yeux qui sont, un regard qui frise, quoi, je trouve qu'il apparaît.
Ouais, c'est dingue, hein. Moi aussi, je suis très ému par ça, de voir, comme elle le fait, il y a presque Tchekhov qui est là, on le voit travailler, on le voit construire la pièce, on le voit choisir. Bon, bien sûr, c'est le passage que tu as choisi, c'est le passage où Trigorine, justement, qui est un écrivain dans la pièce, explique sa manière de travailler et sa douleur à travailler. Donc, on reconnaît évidemment Tchekhov à travers très facilement, mais on a l'impression, oui, moi j'ai l'impression de sentir l'imagination de Tchekhov lui-même, oui. Parce que tout ça a été imaginé. Et souvent, l'auteur, il est un petit peu... il y a une délégation qui se fait, c'est-à-dire qu'il est un petit peu au service, finalement, parce que les acteurs se prennent en charge tout ça, mais tout d'un coup devient, avec les égos, tout ça, les complications, ça devient une chose qui appartient tout d'un coup au théâtre, mais au théâtre dans un sens un petit peu lourd et factice, comme ça, de difficulté de représentation. Mais en fait, c'est pas si difficile que ça, simplement il faudrait rester à l'endroit où c'est encore tout frais, ou l'endroit où c'est encore créé. Et c'est à mon avis facile à ce moment-là, c'est-à-dire que parce que Tchekhov a beaucoup de talent, beaucoup de génie, donc il donne aussi beaucoup. Mais si on reste à l'endroit où il est en train de faire les choses, c'est-à-dire l'endroit de l'écriture, alors là c'est quelque chose de, on entend quand même des choses plus, enfin, que je trouve très très vivantes. Ouais.
Mais moi j'ai aussi entendu Yves Noël au travers de la parole de Tchekhov, justement, enfin par rapport à ce que vous faites au théâtre, justement.
Ben c'est pour ça que ce spectacle est riche, ouais. Est plus riche que les autres, parce qu'on a plusieurs niveaux comme ça qui se mettent ensemble et qui se révèlent comme ça.
Ah oui.
Au début, en effet, quand tu parles, tu as choisi des phrases, parce que dans le premier acte de La Mouette, ils assistent à une représentation théâtrale que Tréplieff, le fils, a fait, en plein air, comme ça, une espèce de forme nouvelle, comme ça, un peu symboliste, et puis après, il y a les commentaires de la mère qui trouve ça insupportable, que tout ça, et évidemment, après tout ce spectacle très science-fiction, comme ça, de l'autre bout de l'univers qu'on a présenté, Laetitia intervient dans le noir, comme une spectatrice, et elle a choisi des phrases qui, dans Tchekhov, ont l'air de parler, en fait, du spectacle qu'on vient de voir. C'est ça qui est très beau.
Puis même quand vraiment le bravo, le premier bravo, moi j'ai vraiment cru que c'était une personne du public qui disait spontanément bravo à la chanteuse, quoi. C'était.
Bah, je lui dis bravo quand même en vrai, parce qu'elle est vraiment bien.
Oui, oui.
Mais à part ça, il y a un truc qui est marrant, qui revient à est-ce que c'est peut-être d'être acteur et peut-être ce que c'est que d'être auteur aussi, ou même d'être spectateur avec les spectacles de Yves Noël. Par exemple, quand on lit un livre chez soi, notre imagination, elle se met en route, on voit la tête des gens. Quand on lit une pièce, moi quand je lis une pièce que je dois la jouer, j'ai mon imagination qui se met en route, je vois des choses, je vois les personnages, comment ils, je sais pas, je vois des trucs, et du coup là il y a tous les soirs, je pense que chacun d'entre nous, les acteurs, on essaie de, on voit en même temps qu'on le fait, on voit ce qu'on, il y a un truc d'imagination, on voit un espace, par exemple moi c'est jamais exactement dans le même jardin que ça se passe, vous voyez pas de jardin, mais, et j'ai l'impression que le spectateur, ça lui, comme c'est pas indiqué mais on le ressent, lui il ressent quelque chose, et lui il fait comme quand il lit, il va voir quelque chose dans son imagination à lui, donc il doit être actif en fait pour recevoir ce spectacle.
Ben oui, c'est très actif, spectateur. On a du mal à faire venir les spectateurs.
Mais pourtant, moi, à chaque fois que j'y étais allée, il y avait du monde.
Alors, oui, mais il n'y a pas du monde. C'est pas, là, par exemple, c'est pas plein plein. Ça pourrait, enfin, plein plein. D'ailleurs, c'est une salle extensible, donc on refuserait personne. Mais on a mis une jauge comme ça à 80. Hier, on était 45. C'est pas vide, mais ça va parce que ce spectacle, je l'ai pensé vraiment qu'à 15 personnes, c'est très bien aussi. Mais je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de gens quand même comme qui se précipitent comme spectateurs. Parce que j'ai beaucoup de demandes, en revanche, de gens qui veulent travailler avec moi.
Ah oui.
Alors là, c'est tous les jours, 3-4. Oui. C'est une foule. Et souvent, les gens qui me disent du bien du spectacle, c'est des acteurs, c'est des danseurs, tout ça, qui veulent travailler avec moi. Et je voudrais rendre hommage à la place de spectateur, mais la valoriser. Parce que c'est vrai. Je l'ai dit au tout début, parce que c'est comment Castellucci qui l'avait dit, il avait fait un spectacle sans acteur. J'en ai fait un aussi, moi, j'aimais beaucoup. Et on lui avait dit, mais on peut supprimer comme ça, la présence des interprètes. Est-ce qu'on peut tout supprimer au théâtre? Il dit oui, on peut tout supprimer au théâtre, sauf la présence des spectateurs. Sinon, ça s'appelle plus du théâtre. En fait, c'est parce que le spectacle se fait chez les spectateurs. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de gens qui comprennent la gloire de ça, d'être spectateur et de fabriquer le spectacle. Alors voilà, je sais pas, c'est pas pour assigner les gens à des places, parce que mais c'est une place qui est rare, quoi. Alors que je dis que j'ai beaucoup de gens qui veulent travailler, qui veulent c'est curieux ça, non?
Ouais, c'est marrant.
Oh.
Bonjour, bonjour, de nouveau, nous sommes avec Mathieu Gallet. Alors Cécile, non,
on a écouté un chant qui est dans le spectacle et qui est magnifique, donc il y a également des chanteurs aussi dans ce spectacle à écouter.
En direct, mais on n'est pas complètement sûr qu'ils sont en direct, quelqu'un m'a demandé en effet hier, mais c'est voulu, c'est-à-dire que c'est comme si, c'est des fréquences comme ça, bon, bref.
Mais, des danseurs aussi.
Pendant qu'on parlait, pendant la musique, on a dit quelque chose d'assez intéressant, vous ne voudriez pas le redire
C'est que Brecht avait organisé des spectacles dans des usines dans lesquelles il n'y avait pas de spectateurs, tous les ouvriers étaient invités à participer, donc c'est une sorte de grand spectacle. Il y a des parties écrites pour tout le monde ou organisées pour tout le monde, et les personnes qui veulent voir le spectacle doivent y participer.
Mais c'est ça, vous me sauvez mon prochain spectacle pour la masterclass, c'est ça que je vais faire. Je vais faire, du coup, participer les spectateurs. C'est ça, ça va. Alors il faut que je trouve cette pièce. Il faut que je trouve cette pièce. Hein? Ben oui, ben voilà.
Oui, mais bon, c'était un spectacle avec que des ouvriers que Brecht y montait.
Oui, et là tu veux dire on n'aura pas les ouvriers. Les ouvriers, ça n'existe plus, c'est ça?
Bah moins, mais c'est pas grave, tu peux faire avec n'importe quelle pièce, je pense.
Pourquoi les ouvriers, ça n'existe plus? Parce qu'ils sont remplacés par les robots. Nous y revenons à ce thème. Et évidemment, c'est triste, mais c'est un peu inéluctable.
Mais ils existent quand même, il y en a quand même.
Il y en a encore? Bon. Bon, très bien.
Moi, j'avais juste une question qui me tenait à cœur, que je voulais poser. C'était par rapport au, justement, ce langage artistique, c'est né, par rapport à votre parcours personnel, en fait. Comment ça s'est construit au fur et à mesure, cette quête de pureté ou d'essentiel, comme ça?
Peut-être, oui. Peut-être qu'au début, c'était pas si pur que ça. Au contraire, ouais, il y avait l'idée de changer de style à chaque fois, de faire plutôt. Et puis, c'est vrai qu'il y a, peu à peu, il y a eu quelque chose qui s'est, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a aussi le défaut de ça. C'est-à-dire que ça prend, du coup, une espèce de couleur un peu cosmico, voilà. J'ai perdu un peu, par exemple, d'acteurs comiques avec qui j'avais, au début, j'ai travaillé beaucoup avec des acteurs qui sont, enfin, on est toujours très amis, mais qui sont maintenant devenus quand même des vedettes, donc ils sont très occupés. Donc voilà, quelqu'un qui est maintenant au Chien de Navarre, qui s'appelle Thomas Simeka, ou Marlène Saldana, qui est quand même venue in extremis faire participer au numéro 3. C'est aussi parce qu'il y a eu des rencontres avec un éclairagiste qui s'appelle Philippe Gladieux, qui c'est lui qui crée ces espèces de lumières très très spatiales et puis oniriques comme ça. Et puis aussi rencontre avec Benoît Pellet qui fait des sons aussi qui peuvent amener comme ça dans des... Là, il y a une grande vague, par exemple, dans le noir. Alors, évidemment, c'est des choses un petit peu, presque mystiques, un peu. Donc, évidemment, il y a une tendance comme ça qui est, je suis conscient, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, dans le cas de la splendide actrice, je trouve. Et puis, peut-être, justement, quand c'est un peu moins fort, ça peut être un petit peu ennuyeux, je sais pas.
Très bien. Bon, on peut peut-être passer à la chronique,
sans transition.
Ah bah si tu veux une transition, c'est un truc qui m'est venu sur le spectateur. Tu parlais de la précieuse place du spectateur. Et ce que t'as dit par rapport au robot, peut-être que le spectateur c'est la seule place qui pourra jamais être remplacée par des robots.
Ben oui, c'est ça que je voudrais faire comprendre. Bien sûr,
c'est vous faites des robots avec Madonna tout ça, mais
ça sera. Mais c'est le risque, c'est que parce que par exemple Stephen Hawking, ça, le grand astrophysicien, il a signé un texte avec d'autres en disant attention parce que d'envoyer des choses dans l'espace, des messages, on risque d'envoyer ça à des civilisations qui ne seront plus que des robots, pas du tout. Parce qu'en fait, il y a vraiment un risque avec l'intelligence artificielle. Lui, il en bénéficie beaucoup parce qu'il est handicapé, donc il bénéficie beaucoup des améliorations de l'intelligence artificielle. Mais il dit qu'il y a vraiment un énorme risque que les robots prennent la place de l'humanité et que probablement dans les civilisations plus avancées dans l'espace, dans le cosmos, c'est que des robots. Donc on envoie des messages à des robots qui ne nous considéreront pas plus que peut-être des amibes. Ou des microbes, ou des je sais pas quoi, enfin des pucerons pour des, enfin vous voyez, donc c'est des grands grands savants qui parlent de ce problème là. Bon, je sais pas si on voilà. Parlons maintenant de Thomas Bernhard qui est un autre phénomène.
Alors bonjour à tous. Donc cette semaine, j'ai été voir Thomas, d'après les récits autobiographiques de Thomas Bernard, un auteur qui a réussi l'exploit de se faire censurer par la radio nationale de son propre pays, l'Autriche, pour insulte au peuple autrichien. Adapté et traduit par Christiane Ganassia, mise en scène par Gilles Pastor, et c'est joué par Jean-Marc Avocat. C'est en ce moment au Théâtre de la Croix-Rousse. Et voici donc Thomas, d'après Thomas Bernard, en 3 minutes.
Si j'en suis arrivé là, c'est sûrement pas grâce à ma mère, cette connasse qui a élevé la crétinerie au rang d'art sacré, et n'a jamais compris que c'était pas en frappant le fils qu'elle fera revenir le père. Quant au père, se dit, je vous laisse deviner, j'épargne papy, seule lueur d'espoir dans un monde où j'ai vite compris qu'on ne trouvait pas l'intelligence dans le cul de la première chèvre bavaroise venue. L'école, vous imaginez qu'avec cette mentalité, c'était mal parti, entre ceux qui n'avaient pas inventé l'eau chaude et encore moins la douche, et ceux qui confondaient apprentissage et suicide collectif. Je vous dis pas qui prétendait enseigner à qui, ce serait quand même leur faire trop d'honneur. Ça nous fait un sacré tas de débiliteux capables d'admirer le premier mec assez timbré pour faire le tour du monde qui passe, d'Hitler à Jésus et vous donner le niveau. Je me suis donc décidé à travailler. Un milieu qui a son lot de demeurés et d'abrutis, où le moins handicapé a l'esprit aussi lumineux que le grand colon d'un chameau. Moins tu les payes, plus ils sont heureux, et plus ils sont heureux, plus ils payent. Avec ça, on était bien parti pour affronter le siècle. Une seconde, je change de siège.
Fais chier, hein ? C'est bon, c'est la radio, personne voit.
La seule mimique que ce prétendant génie de la mise en scène a trouvé à me faire faire dans son cerveau brumeux, s'il en est un. Voilà. Bon. Là-dessus, je suis tombé malade. Il a bien fallu aller à l'hôpital. Et alors là, c'était la fête à Neuneu. Le grand festival de la couille. Et ça a des diplômes, hein. C'est du teubé qualifié, c'est vous dire. Là, il y a du débile de race. On en ferait des compétitions. Des mecs qui passeraient la journée en extase devant cette merveille de technologie qu'est le fil à couper le beurre. Moi, je m'en suis sorti. Ne me demandez pas comment. Le papy est mort, me laissant terriblement seul dans ce monde d'ailleurs. Et c'est là que j'ai décidé que tracher tout ce qui passe est une activité tout à fait honorable par égard aux standards de notre époque. Ergo, je me tape le prix Julius Camp et de littérature de la ville de Brême, et Jörg Büchner de mon cul de l'Académie allemande de langue, s'il vous plaît, et Grieg Parzer, et des dramaturges de Hanovre, et le Médicis étranger. Et la grande question, sur laquelle je rejoins la bande de sous-doués bienheureux que vous êtes, c'est de savoir d'où ça peut bien me venir. C'est tout.
C'était Thomas, d'après les écrits autobiographiques de Thomas Bernard, le véritable précurseur des vidéos d'insultes sur Internet, traduit et adapté par Christiane Ganassia et mis en scène par Gilles Pastor, et joué par Jean-Marc Avocat. C'est en ce moment au Théâtre de la Croix-Rousse, et jusqu'au 7 novembre. Cette chronique d'une finesse qui n'a pas son pareil a été lue et interprétée par Simon Espalieu, et je l'en remercie.
Et de rien.
Donc voilà, on a encore quelques minutes pour...
C'était un texte que vous avez réécrit de mémoire.
Alors ils sont entièrement réécrits à partir de rien. Donc je vais voir le spectacle et
c'est pas directement Thomas Bernard.
Ce n'est pas directement Thomas Bernard. C'est réécrit.
Réécrit d'après votre mémoire du spectacle.
D'après mon souvenir et ma vision subjective effectivement.
C'est super, je trouve. Voilà. C'est super.
Vous prenez des notes.
Il y a le ton, il y a le fond, et puis il y a une manière un peu marrante, ouais, de. C'est bien, je trouve.
Et j'en profite aussi pour rappeler deux événements qui se passent en ce moment. Il y a Les Hommes Maintenant, le grand orchestre de l'Arfi qui joue au Théâtre de la Renaissance encore ce soir. Et il y a aussi Bells Are Ringing à la Maison de la Danse, qui est une grande comédie musicale et sur un écrivain qui a des problèmes de femmes. Voilà.
Très bien, merci pour l'agenda.
Bah nous aussi, on fait ce spectacle-là. Hein.
Oui, voilà.
Venez nous voir, vous verrez ça aussi. Hein.
Donc c'est c'est ce soir et jusqu'à demain soir à 20h au Théâtre du Point du Jour. Vous pouvez venir un peu en avance et boire une coupelle de champagne. Servir
une flûte. C'est mieux des coupes, mais on n'a pas des coupes.
Une flûte servie par Yves Noël.
C'est plus facile de trouver des flûtes, oui. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit, oui, dure 1h40, et voilà, il ne faut pas avoir peur du noir, et puis voilà.
Mais en même temps, je trouve que c'est marrant, ce truc de dire, où est-ce que vous n'avez pas peur du noir ? Parce que du coup, quand on se retrouve dans le noir, on se dit, mais oui, ça doit être vraiment horrible d'avoir peur du noir. Enfin, on se met dans la peau de quelqu'un qui a peur du noir.
Mais c'est épouvantable, oui. Il y a des gens qui ne supportent pas. Moi, j'ai travaillé, fait un spectacle entier, il durait 1 heure dans le noir à Avignon. Et bien que je prenais les gens un par un comme ça pour avant et faire des essais avec certains, il y avait quand même pas tous les jours mais souvent des gens qui quand même supportaient pas et qui demandaient du coup de qu'on rallume pour sortir. Et c'est difficile pour j'ai des amis qui sont phobiques et qui aiment beaucoup mes spectacles mais qui peuvent pas aller voir ceux où il y a vraiment du noir.
Oui, c'est une expérience en soi. Enfin, on est rarement habitué vraiment à les théâtres. C'est vraiment des cubes où le noir est absolu. Donc oui, c'est particulier.
C'est absolu depuis traditionnellement, mais depuis quelques années, c'est plus absolu puisqu'il y a des sorties de secours.
Ah oui.
Là, il faut tout un système de
dérogation,
système compensatoire.
Pour pouvoir les éteindre,
oui,
du coup.
Oui. Mais on ne comprend pas pourquoi au moment où ces normes européennes sont arrivées, pourquoi toute la profession ne s'est pas levée comme un seul homme pour dire « mais attendez, le théâtre c'est dans la boîte noire, ouais. C'est la boîte noire, c'est ça le théâtre ». Et donc si c'est avec des sorties de secours, on n'a pas la boîte noire. Il y avait Malraux qui disait à Pierre Soulages que les plus beaux noirs de théâtre, les plus beaux noirs pour lui c'était les noirs de théâtre, noirs velours de théâtre, et c'est les noirs les plus profonds, c'est vrai, traditionnellement c'est ça. Avec le théâtre du Radeau, François Tanguy, avec qui j'ai travaillé, il travaillait des noirs comme ça, magnifiques, d'une profondeur incroyable, très très belle. Je ne sais pas si on doit parler encore longtemps ou si l'émission est finie.
Bon,
on a quelques minutes.
Oui, on a.
On va jusqu'à 14h.
Bah,
ouais, on va jusqu'à 14h. On est avec vous jusqu'à 14h. Alors, on peut écouter maintenant
des auditeurs. Vous voulez que je passe
un auditeur qui veut nous parler.
On peut entendre. Enfin, moi, j'aimerais bien écouter un peu, oui, les autres interprètes.
Les voix.
Les garçons, Simon, Miguel, qu'est-ce que ça fait d'être dans ce spectacle depuis déjà samedi dernier ? Qu'est-ce que, même dans votre vie, en quoi ça joue ? Qu'est-ce que ça provoque ?
Ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille avec Yves Noël, on travaille pas seulement le spectacle, c'est plutôt... Enfin, par ailleurs, on est un peu en colloque avec Yves Noël et Simon, qui est là, et Laetitia aussi. Ouais. Et du coup, on passe pas mal de temps à parler de choses qui sont liées au spectacle, au théâtre, mais à la vie aussi en général. Du coup, c'est plus une espèce d'atmosphère dans laquelle on travaille en permanence. Et là, en ce moment, Yves Noël, il lit pas mal des livres sur la physique quantique. Enfin, je sais pas si je... C'est, enfin, ouais. Physique quantique, etc. Et puis, il nous parle beaucoup et il nous fait beaucoup de... Il nous lit beaucoup de textes, il nous fait beaucoup de citations, etc. Du coup, c'est pas seulement un travail au plateau, en fait. C'est un travail cosmique et quantique, quoi.
D'ailleurs, il faudrait que je te... J'ai pas encore beaucoup lu là-dessus, mais il y a un truc comme ça où il y a un matériau qui existe, qui est le noir le plus profond qui existe. Je sais plus, ça s'appelle Venta Black, je crois, en anglais. Un truc qui est si noir que quand l'œil humain le regarde, il sait pas ce qu'il voit. Il comprend pas, en fait.
Ah bon?
Ouais, ça existe. Il faudrait qu'on regarde, parce que moi-même...
Mais c'est quoi, ça?
Je sais plus, c'est un truc que j'ai vu sur Internet. Je sais pas si
c'est noir qu'on voit pas du noir.
Bah si, quand tu le vois en photo, t'as l'impression de voir un truc d'un noir très pur. Et apparemment, quand tu le vois en vrai, t'as l'impression de voir un trou ou un truc.
Ah oui.
Il comprend pas trop quoi.
Ah oui. Comme un trou. Ah
mais
oui.
Je saurais pas en dire plus. J'ai pas.
Ah oui.
Bref.
Oui.
Non, c'est bon, j'avais fini.
C'est beau la lumière.
Et pour toi, Simon, ouais, par rapport à ce que je disais.
Il y a plein de choses. Moi, il y a un autre truc auquel j'ai pensé tout à l'heure quand on en parlait déjà. Le truc impossible. Souvent tu dis ça, Yvno, que c'est il faut se laisser, il faut faire les choses parce qu'elles sont impossibles. En fait, si c'était juste difficile, ce serait moins intéressant ou ça du coup ça nous bloque. Mais vu que c'est impossible, autant le faire, autant essayer. C'est moi ce truc que je trouve impossible, c'est ouais, c'est jouer et vraiment en jouer comme si on n'avait pas conscience que le public est, que qu'on était regardé en fait, ouais. Mm-hmm. Et qui est en fait c'est paradoxalement synonyme d'une ouverture très très grande, quoi, comme tu dis, quand on est dans le même espace que les spectateurs, que le truc. Et donc c'est pas du tout faire quelque chose pour soi fermé, c'est vraiment juste il y a encore plein d'anecdotes là-dessus de Nick Cave qui voit de dos, tout ça, tout des gens qui en fait sont très beaux quand ils font des choses, quand ils existent, quand ils sont, et qu'ils n'ont pas conscience d'être vus. Et en fait, on essaie de trouver une sorte de d'état de présence comme ça. Et ce qui est beau, c'est quel que soit ce qu'on fait, que je sois dans ce spectacle, par exemple, immobile pendant 5 minutes, ou alors que je doive dire la mouette pendant 1 heure, il y a ce truc de, c'est rien, en fait. C'est la vie, et les mots viennent par-dessus, ou, enfin, c'est des choses qui se rajoutent, mais c'est toujours la même qualité qui est la plus importante, en fait. Enfin, c'est moi ce que je... Et c'est vrai que c'est particulier. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Là, j'ai une partition un peu muette dans celle-ci, qui est pas la même que j'avais fait, parce que j'avais travaillé aussi à Paris le 1er avril. Mais j'avais aussi une partition muette, et c'est des trucs dans lesquels je prends beaucoup de plaisir, parce que ça paraît facile, et du coup, je peux vraiment me laisser porter sur plein de micro choses et de petits détails de ce que je fais dans le parcours, tout ça. Et ça me fait rigoler quand Laetitia me dit qu'elle aimerait bien une journée sans rien, parce que comme on joue tous les soirs, même si elle fait rien avant, sa journée elle est gâchée par le sorte de stress de cette épée de Damoclès de bon, je vais quand même devoir jouer ce soir. Et je pense que moi ce serait pareil si je devais, ouais, si j'avais un texte complet et tout, j'essaie de...
Et moi donc, comme j'aimerais avoir une journée, alors je vais avoir, oui, j'ai une relâche tous les 15 jours. Alors en général, ça va être dimanche, je rentre à Paris, j'arrive chez moi, je m'allonge, je dors toute l'après-midi, je suis tellement crevé, je me dis mais à quoi bon être à Paris pour dormir, voilà, c'est triste cette vie.
Et sinon Lyon, qu'est-ce que, parce que vous êtes...
Mais sinon Lyon est la plus belle ville de France.
Oh, là,
on découvre, c'est beau. C'est beau. Les Lyonnais, ils sont un petit peu... Quand on est méchant, on veut dire, on dit fermé. Quand on est gentil, on dit secret.
Bon, je crois qu'on peut se dire au revoir sur Christophe, alors.
Christophe.
Dans le spectacle.
Ah, j'adore Christophe.
Comme chaque soir, je l'attends,
eh ben, merci.
Elle me sourit.
Au revoir, c'est super.
Il faudrait que je lui parle.
Il était sur son char.
Amateur,
propagande. Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.